Did you see Mexico City?
It's a stimulating place. Perfect climate, beautiful art and architecture, attractive cosmopolitan people, fascinating shops, and a swift pace that's balanced by tradition, which makes for gracious living. Buildings that are really dramatic examples of contemporary architecture. Along busy downtown streets are hurrying crowds, smart shops full of luxuries, and colorful cafes that serve fine food and spicy entertainment.
Well, that's Mexico, but not Mexico of today.
Donc chapitre 9, quantité de matière, son unité la mole. Grand 1, quantité de matière. Premièrement, de l'échelle microscopique à l'échelle macroscopique. Ceci évidemment à l'échelle microscopique. Présente dans les échantillons de matière. Prenons un exemple. Le nombre d'atomes de fer contenus dans un échantillon de masse M égale 3,5 g, sachant que la masse d'un atome de fer est égale à 9,3 fois 10 moins 23 g, se calcule ainsi. Donc ce nombre d'atomes est égal à 3,5 divisé par 9,3 10 moins 23.
Pour commencer, il y a d'abord des choses très faciles à faire, des choses que je pourrais faire dès aujourd'hui. Par exemple, faire une promenade sur des bateaux-mouches. J'ai jamais été, depuis que je suis parisien, depuis ma naissance, j'ai jamais été sur les bateaux-mouches. Alors je pense que ce serait... Je sais pas si c'est intéressant, mais enfin, ce serait une chose à faire. Ensuite, il y a des choses un tout petit peu plus importantes, des choses qui impliquent des décisions de ma part, des choses dont je me dis que si je les faisais, elles me rendraient peut-être la vie plus facile.
Définition de la mole. Une mole d'entité élémentaire chimique, donc atome, ion ou molécule, est la quantité de matière d'un système contenant 6,02 fois 10 puissance 23 entités. Elle est notée avec la lettre petit n. La mole est l'unité de quantité de matière, son symbole est mol.
Ou bien faire l'acquisition de divers appareils électroménagers. Une machine à laver la vaisselle. Une machine à laver le linge. Enfin, je me suis servi récemment pour la première fois de ma vie. C'est tout à fait étonnant, une machine à laver le linge, et c'est très commode. Ou bien encore, alors ça c'est un peu... je sais pas si c'est une chose que je souhaite faire, mais disons que j'aimerais la faire avant qu'on m'y oblige, c'est m'arrêter de fumer. Je veux dire, un jour viendra, je suppose, où un médecin me dira
faut
que je vous parle sérieusement, désormais fini de fumer. Alors peut-être m'arrêter avant. Bon. Alors, ensuite il y a des choses qui sont liées à des désirs plus profonds de changement. Par exemple, m'habiller d'une façon tout à fait différente. Ça c'est, par exemple, me remettre à porter des cravates. Enfin, quand je dis me remettre, je crois que j'ai pratiquement jamais porté de cravate de ma vie. Enfin, me faire confectionner un costume avec un gilet. Enfin, voir un peu ce que ça ferait si je changeais complètement de vêture. Et une chose que j'aimerais beaucoup faire aussi, c'est aller vivre à l'hôtel, à Paris. C'est-à-dire me mettre une sorte de... Enfin, c'est un mode de vie, je veux dire, tout en vivant à Paris, vivre à l'hôtel. Ça, c'est quelque chose auquel j'ai souvent pensé, je ne sais pas si c'est...
Eh bien, prenons cet exemple. Dans 2 moles d'ion cuivre Cu2+, il y a 2 fois 602 fois 10 puissance 23...
Ou alors, ça, j'aimerais faire, ça, je pense que j'aurais quand même l'occasion de le faire, c'est aller vivre pendant assez longtemps, un an ou deux ans, dans une grande ville étrangère.
Il y a 5 fois 602 10 puissance 23 molécules.
Ensuite, alors, il y a des choses qui sont liées à des rêves de temps ou d'espace. C'est un gros bloc. Alors, il y a un rêve qui est de passer par l'intersection de l'équateur et de la ligne de changement de date. C'est-à-dire le point, finalement, un des points les plus curieux de
Qu'est-ce que c'est? C'est le méridien de Greenwich?
Oui, c'est le méridien de Greenwich de l'autre côté.
Le changement de date, c'est ça?
Oui, de l'autre côté. Et puis, qui donc passe nécessairement à un endroit.
C'est en plein Pacifique.
C'est en plein Pacifique. Et c'est pas impossible.
À représenter le temps par un axe.
Passer à midi.
Rectiligne en général. Sur lequel on met une flèche et on dit c'est l'axe des temps. C'est l'axe des temps. Et donc, on représente le temps comme une variable à une dimension. Un seul nombre suffit à repérer une date. Et la flèche qu'on met là,
vivre une expérience.
Et la flèche qu'on met là,
oui. Non, pas nécessairement sans œil. Via
sans
avec
de
des sans point de repère.
À plusieurs sens.
C'est qu'il y a quelques mots.
D'abord, elle signifie que si vous êtes présent sur l'axe des temps,
un peu dans le même genre, faire un voyage aussi.
À un certain instant, appelons l'instant T.
Faire un long voyage.
Vous êtes empêché d'y demeurer. C'est-à-dire, si vous êtes présent à l'instant T, aussitôt après, le cours du temps vous oblige à vous déplacer en même temps que lui. Autrement dit, la flèche...
Et le nombre de mol.
La flèche qui est là traduit une sorte de motricité du temps qui vous empêche de rester présent au même instant présent. C'est la première chose. La deuxième chose que signifie cette flèche, c'est qu'elle vous dit en fait que vous ne pouvez pas choisir librement votre position dans le temps. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas décider d'être ici plutôt que là. Et si vous avez été présent quelque part, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Autrement dit, cette flèche, elle traduit aussi l'impossibilité de voyager dans le temps. Donc ça veut dire que le temps qui est là représenté de façon statique, en fait, il est mu par une forme de dynamique dont le responsable est ce qu'on appelle le moteur du temps. Et donc la question que je voudrais poser, c'est est-ce que nous sommes capables d'identifier le moteur du temps, ou pour le dire en termes plus familiers, est-ce que nous savons d'où vient que le temps passe ?
Alors, ensuite, des choses que je voudrais avoir le temps de bien découvrir. C'est toujours, c'est encore une fois, c'est souvent des choses aussi des voyages.
On saga ol, on saga olon. Sordo sonne donne.
Ibash. Régir.
Selim sonon.
Est-ce que vous êtes sûr qu'un voyage dans le temps, ça serait agréable? Par exemple, voyager dans le futur, ça peut être très dangereux si le futur n'existe pas encore. Alors, si vous êtes dans la conception de l'univers bloc, ça va, parce que le futur est déjà là. Mais si vous êtes dans une conception plus présentiste, aller dans le futur, c'est aller dans le néant.
Apprendre une langue étrangère, enfin, ça serait, disons, plus simple serait l'italien.
On la note en thème et elle s'exprime en gramme par mol ou en gramme mol moins un. La masse molaire atomique d'un élément est égale au rapport de la masse petit m en grammes de cet élément sur la quantité de matière petit n en mol que cela représente. Masse molaire égale masse sur nombre de mol.
Ce principe de causalité dit que vous ne pouvez pas modifier un événement qui a eu lieu. Si un événement a eu lieu, il a eu lieu éternellement.
Philippe, je suis.
Vous pouvez évidemment, vous pouvez l'oublier.
Je suis Philippe.
Vous pouvez ne pas avoir été témoin.
Je suis Philippe.
Vous pouvez vous tromper à son sujet. Mais en tant qu'événement, s'il a eu lieu, il demeurera éternellement vrai qu'il a eu
lieu.
Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas voyager dans votre temps propre. Vous ne pouvez pas remonter dans votre propre passé. En revanche, en relativité, vous savez qu'on peut voyager dans le temps propre d'un autre. Ce que dit la théorie de la relativité, c'est qu'en fait, il existe autant de temps propres différents qu'il existe d'observateurs différents. Vous ne pouvez pas voyager dans votre temps propre, mais vous pouvez, à condition d'aller très vite, dans l'espace, voyager dans le futur d'un autre
observateur. Apprendre le métier d'imprimeur. Et puis aussi faire de la peinture. Faudrait oser. Ce que je voulais faire au début, c'est-à-dire avant de vouloir être écrivain, comme on dit, j'envisageais, je disais, je serais peintre. Enfin, bon. Et puis en fait, ça c'est quelque chose. Il y a des choix, on peut plus, c'est difficile de revenir. C'est bien que Michaud l'a fait, par exemple. Enfin, je crois qu'il a commencé avant 45 ans, quand même. Mais là, c'est. On sent. Pourtant, peut-être, c'est pas impossible. Rien de tout ça n'est impossible.
C'est-à-dire 24 grammes divisé par 12 grammes par mol, c'est à peu près 2 mol. Donc,
il y a une question de fond. Est-ce que nous sommes capables d'accéder à des réalités qui ne dépendent pas de nous? Alors vous êtes physicienne, moi aussi. Je pense que quand on est physicien, on doit faire le pari qu'il existe un en dehors de l'esprit. Qu'il existe un en dehors de l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a une réalité qui n'est peut-être pas complètement connaissable, mais qui peut s'imposer à nous, de sorte que certaines de nos idées peuvent être démontrées fausses par des expériences, par exemple, qui montrent que notre façon naturelle de penser n'est pas forcément dénuée d'erreurs. Autrement dit, je fais le pari qu'il existe des réalités qui ne dépendent pas de moi, qui sont capables, si j'apprends à les connaître, de me détromper. Sinon, quel intérêt de faire la vie? Donc, si tout ce que vous apprenez ne vous renseigne que sur votre façon de penser, si toute découverte est en fait une introspection, l'intérêt me semble...
Je suis.
Je suis pas.